Salut Sophie.
Salut Florian.
Et bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Comme chaque semaine, on se réunit pour parler de nos découvertes faites lors des 7 derniers jours. Comment ça va Sophie ?
Eh ben écoute, ça va bien et toi ?
Eh ben écoute, ça va bien, bien mieux qu'hier.
Ça y est.
Puisque
plus de soucis de voix.
Il faut savoir qu'on a que c'est la deuxième fois qu'on enregistre cet épisode, voilà. C'est
qu'on essaye du moins.
Et disons qu'on a un peu trop abusé au karaoké, voilà, ça arrive.
Il y en a qui veulent imiter les oiseaux, mais bon, t'as pas le syrinx pour ça, tu vois, et ça passe pas.
Ouais. On dit le syrinx.
Bah oui.
Ah ouais. Ah, je croyais qu'on disait la syrinx.
Ah bon?
Ah non. Oh, je viens d'apprendre un truc. Incroyable. Bah ouais. Moi, je sais pas. Moi, ça me paraissait logique de dire la syrinx.
Bah, on dit le larynx, alors du coup.
Je l'ai appris comme ça. Bah ouais. Oh, tiens, bah, j'ai appris un truc. Bah, justement, c'est le but de l'émission, apprendre des choses. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire spécial mésange.
Oui, oui, ouais, c'est vrai. C'est tout à fait ça.
On va
exactement.
Parler de mésange à nouveau. Comme toutes les 4 semaines, on parle de mésange dans cette émission.
Oui, j'ai l'impression que c'est un thème un peu récurrent quand même, non?
C'est ça. Toi, tu nous parles de quoi aujourd'hui?
Moi, aujourd'hui, j'avais... Bon, c'est de la mésange aussi, mais du coup, c'est la mésange de Chine. Et la mésange de Chine qui, il semblerait, a appris la politesse, d'une certaine manière.
Donc, ça, c'est... incroyable.
Ouais.
J'avais consulté l'article rapidement qui était disponible sur Internet. Il y avait beaucoup de choses qui étaient intéressantes à dire. Mm. Mais moi, personnellement, je vais commencer par parler d'un sujet d'actualité. Ce qui est assez rare dans l'émission en tant que telle, parce que c'est un sujet d'actualité que vous connaissez tous et toutes, puisqu'on va parler de l'A69 qui pose question, qui pose débat depuis déjà quelques mois. Et cette autoroute va connaître un destin assez original, vous en conviendrez. Veux-tu que je commence, ma chère Sophie, vu que je suis
là? Eh bien, t'es bien partie, ma foi, n'hésite pas.
Eh bien, on va partir sur l'autoroute, justement.
Allez,
l'autoroute
en voiture.
L'autoroute 69, est un projet qui date d'il y a plutôt assez longtemps, puisque c'est un projet qui date de fin 90, début des années 2000. Mmh. Et l'objectif de cette autoroute qui fait 53 km, c'est de relier les villes de Verfeil à Castres et plus, indirectement, faire une liaison entre Toulouse et Castres, même si la liaison entre Verfeil et Toulouse n'est pas une liaison autoroutière. Donc c'est un projet, comme je l'ai dit, qui est né à la fin des années 90. On a une enquête publique qui a été lancée début 2010 et c'est sous la présidence de François Hollande en 2014 qu'on a commencé réellement à voir l'aboutissement de ce projet d'autoroute, en tout cas la possibilité de pouvoir la construire. Pour cela, il fallait une déclaration d'utilité publique qui a donc été lancée en 2014, qui a abouti en 2018 et en 2021, il y a eu un appel d'offres qui a été lancé, un appel d'offres qui a été récupéré, qui a été gagné par la société Atosca, qui devient le concessionnaire de cette autoroute, un concessionnaire qui a été approuvé en avril 2022, qui doit construire l'autoroute et l'exploiter, tout ça, je crois, sur une quinzaine d'années, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, les travaux ont démarré mars 2023, puisque les travaux ont été validés, l'appel d'offres a été validé. Cependant, il y a eu énormément de personnes qui se sont manifestées contre l'avènement de cette autoroute. Plusieurs choses qui sont rapportées par les scientifiques, des impacts sur la biodiversité, bien évidemment, de l'altération des paysages. On va y revenir avec un document que vous pouvez consulter et on vous mettra les liens dans la description. Mais c'est un document qui est public. Vous pouvez vous aussi le trouver sur Internet. On avait aussi des problèmes concernant la préservation des zones humides et la consommation des sols naturels et agricole, ce qui fait qu'il y a eu eh bien, beaucoup de personnes qui se sont lancées contre ce projet, un projet que certains considèrent comme tout simplement faisant du partie du passé, puisqu'il date, la concertation, comme on l'a dit, a démarré à la fin des années 90, début des années 2000, oui. Et c'était un projet qui n'a jamais réellement été réactualisé, aussi bien du côté social que du côté environnemental. Donc il y a eu un sondage qui a été réalisé aussi, un sondage pour savoir si les gens étaient plus ou moins favorables eh bien, à la création de cette autoroute. Il s'est avéré que le sondage était défavorable, il s'est avéré que la société Atosca a elle aussi réalisé un sondage qui lui s'est révélé favorable. Évidemment, on a envie de dire, l'objectif c'est ouais, quand même de démontrer l'utilité de cette autoroute. Après, il y a énormément de biais dans ce sondage, comme par exemple le fait qu'il n'y ait que 600 personnes qui étaient interrogées des communes où cette autoroute doit passer, doit partir ou doit arriver. Ce qui est très peu, rien qu'à Castres, je pense que vous avez déjà plus de 600 personnes que vous pouvez interroger. Donc voilà, on peut remettre déjà en doute l'utilité de ce sondage. Néanmoins, la société Atosca, lorsque eh bien, elle a présenté le projet, et pareil, ce sont des informations que vous pouvez retrouver sur leur site, eh bien, le volet environnement était plutôt important, puisque 23% de l'investissement total était consacré justement à préserver l'environnement avec des aménagements qui ont été réalisés, et un tracé de l'autoroute qui a été optimisé pour éviter 4 zones d'enjeux écologiques majeurs. Il y avait même aussi 35 bassins de préservation qui devaient être créés. On avait des hectares aussi de haies, 25 hectares et boisements qui devaient être plantés. Donc le projet en lui-même s'était emparé de cette question environnementale plutôt sérieusement à la vue des chiffres que nous avons. Maintenant, on va parler eh bien, de quelque chose qui fâche pour ce projet, à savoir le DAE de défrichement qui est très intéressant. Donc un DAE, qu'est-ce que c'est ? C'est une demande d'autorisation environnementale, c'est un dossier qui est réalisé et ce dossier eh bien, doit présenter toutes les pièces spécifiques pour justement eh bien, pouvoir mettre le projet en état de marche et ici, en l'occurrence, demander l'autorisation de défricher et de défricher plusieurs secteurs. Et là, on se heurte à un problème très important, ma chère Sophie, c'est le fameux problème de la fragmentation des habitats.
Et oui.
Parce que cette autoroute, eh bien, effectivement, va passer par plusieurs bois. On va revenir justement sur notre oiseau d'ici quelques instants. Mais la fragmentation de l'environnement, c'est quelque chose de très très important. Même si on a des oiseaux, même si on a une fragmentation qui est toute petite à l'échelle d'une autoroute, ça peut avoir des conséquences dramatiques, on est d'accord.
Bah, toute petite, ça reste une autoroute, hein. C'est minimum une 4 voies, alors je sais pas combien de voies ils ont prévu pour cette
absolument
autoroute-là, mais quand même, après ça dépend à l'échelle de quel animal on le prend, mais mettons qu'on prenne ça à l'échelle d'une sauterelle, par exemple, une autoroute, mais c'est immense, c'est un désert, surtout pour la sauterelle, et c'est un désert qui est absolument impitoyable avec le nombre de voitures qui passent dessus. C'est pour les insectes particulièrement, c'est quelque chose de terrible. D'ailleurs, on le sait. Alors pour les oiseaux, peut-être un peu moins, mais pour, même pour des choses un peu plus grosses, mettons des crapauds par exemple, les autoroutes, c'est meurtrier, hein, c'est terrible. Donc ouais, c'est... On n'y pense pas souvent à ces bestioles-là, mais mine de rien... Des constructions comme les routes, même des routes toutes simples, ont un gros impact sur l'environnement et, comme tu dis, sur la fragmentation des habitats, en séparant des endroits en deux, ou en trois, ou plus, et donc en coupant des populations. Ce qui d'ailleurs peut aboutir à des phénomènes de spéciation, en parlant de ça.
Absolument. Absolument, effectivement. Et donc, parmi ces zones, il y a ce qu'on appelle le bois de la Crémade, un bois qui est un peu le point névralgique, justement, de ce débat entre ceux qui sont pour l'implantation de l'autoroute et ceux qui sont contre l'implantation cette autoroute. Et il s'avère, eh bien, que le bois de la Crémade, eh bien, a eu la visite d'un petit allié inattendu, à savoir notre mésange bleu, puisque lors de diverses observations, on a remarqué que la mésange bleue était nicheuse à cet endroit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que l'OFB a classé cet endroit zone à fort enjeu environnemental et que toute déforestation eh bien, est interdite jusqu'à nouvel ordre. Et ça, c'est référé par l'arrêté du 29 octobre 2029 qui fixe la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire. Là aussi, les documents, vous pouvez les trouver sur Internet et ils sont accessibles pour tous les publics. Et le présent arrêté s'applique aux oiseaux non domestiques, des espèces dont les listes figurent aux articles 3 et 4. Donc aux articles 3 et 4, vous avez la liste des espèces dont la mésange bleue, bien évidemment. Et ces espèces concernées, eh bien, ce sont notamment les espèces ayant niché à au moins une reprise depuis 1981 sur le territoire métropolitain de la France. Ce qui est bien évidemment le cas pour la mésange bleue, c'est un des oiseaux les plus communs de France. Donc bon, voilà, hein, c'est quand même quelque chose, c'est un oiseau plutôt, plutôt évident à ce niveau-là. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que dit l'article 3? Eh bien, l'article 3 dit que sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, destruction intentionnelle ou enlèvement des œufs et des nids, destruction, mutilation intentionnelle, capture ou enlèvement des oiseaux dans le milieu naturel, mais surtout, perturbation intentionnelle des oiseaux, notamment pendant la période de reproduction et de dépendance, pour autant que la perturbation remette en cause le bon accomplissement des cycles biologiques de l'espèce considérée. Et c'est sur ce point eh bien, que l'OFB est intervenu et a dit que cette zone, le bois de la Crémade, était à fort enjeu environnemental. Mmh. Et c'est jusqu'au 1er septembre eh bien, que les travaux sont en suspens, travaux qui doivent se terminer en 2025.
D'accord, donc c'est pas... On n'a pas bientôt une autoroute, c'est ça? Clairement,
exactement,
ça marchera
pas. On n'a pas bientôt une autoroute. Et c'est un délai qui va sans doute permettre eh bien, aux associations de pouvoir peut-être réaliser d'autres référés et peut-être eh bien, de mettre un terme définitivement à ce projet d'autoroute, qui fait parler de lui et qui fait bien parler de lui en France depuis mars dernier.
D'accord, bon. Et cette autoroute, elle est vraiment nécessaire? Parce que tu disais, c'est un projet qui date des années 90, mais est-ce que du coup, elle est vraiment nécessaire au niveau des transports urbains? Est-ce qu'on a vraiment besoin de cette autoroute en plus pour... Est-ce qu'il y a des gens qui l'utiliseraient, c'est ça? Est-ce qu'il y a eu des critères là-dessus qui ont été faits sur savoir s'il y a vraiment un impact au niveau du transit des personnes et peut-être des biens aussi sur cette autoroute-là? Est-ce que ce serait important?
Manifestement, d'après ce que j'ai pu trouver comme information, le point névralgique, comme je l'ai dit, c'est de relier deux lieux qui sont extrêmement importants en termes de population, à savoir Toulouse et Castres, par une gigantesque voie rapide ou une autoroute. Et l'objectif, eh bien, c'est justement de fluidifier les échanges entre ces deux lieux. L'une des personnes qui était les plus favorables à la mise en place de ce système... Mm-hmm. C'était Pierre Fabre, un des employeurs du Tarn, le premier employeur du Tarn d'ailleurs, qui était à l'origine du projet. Et l'objectif pour lui, c'était eh bien, de faciliter la desserte pour les personnes qui viennent travailler de Toulouse à Castres, et aussi pour que les camions de marchandises puissent traverser plus facilement ce secteur. Et d'ailleurs, il y a des décisions qui ont été menées de lobbying, notamment auprès de certains décideurs politiques, d'après les informations que j'avais pu trouver. Donc voilà, ce sont les principaux points à signaler vis-à-vis de ça.
Ok, donc il y aura un intérêt économique au final.
Il y aurait effectivement un intérêt économique, effectivement.
D'accord, bon, bah, faut espérer. Après, la mésange bleue, je pense que... Certes, c'est du coup l'oiseau qu'on a pu remarquer, parce que c'est quand même quelque chose, même si c'est pas si gros que ça, c'est quand même quelque chose qu'on remarque bien, une mésange bleue, c'est assez caractéristique. Mais j'imagine que s'il y a des études qui sont faites sur ces petits bouts de forêt qui vont être coupés en plusieurs morceaux, il est possible qu'on y trouve des espèces endémiques, principalement des insectes certainement, qu'on va pouvoir après étudier sur place et qui vont certainement dire que ce projet-là serait peut-être un peu dommageable pour la biodiversité qui est dans ces endroits-là. Et si ça se trouve, il y a des espèces protégées aussi là-bas, qu'on va devoir ne pas toucher. Donc, C'est fort possible que...
Effectivement, effectivement. Selon l'autorité environnementale, le projet d'autoroute mettait en avant un certain nombre d'enjeux qu'on a cités précédemment, notamment fragmentation du territoire. On en a parlé avec la fragmentation des forêts. Mmh. On n'a pas parlé de la pollution aussi. Et puis, bien évidemment, tout ce qui est risque sanitaire avec le transport de ces camions, avec des marchandises plus ou moins controversées.
Oui, ça, c'est malheureusement, c'est un peu le problème. Hein. C'est l'humain, ça. C'est... J'ai envie de dire, pour qu'une ville fonctionne, il y a toujours ce genre de marchandises qui arrivent. Bon, bah, c'est effectivement un sujet d'actualité. Hein. C'est un peu polémique. Est-ce qu'on fait dans la polémique maintenant?
Oh ben non, mais c'est pas question de dire si les gens ont raison ou tort. L'objectif, c'est juste de présenter les faits et par la suite, eh bien, de dire qu'un oiseau a mis à mal une certaine opération. Pas spécialement de polémique là-dedans, je pense.
D'accord.
Après, je peux peut-être me tromper, hein, mais l'objectif, c'est d'être surtout factuel. Ça, c'est une évidence.
Ça, c'est sûr. Non, mais c'est bien d'avoir présenté comme tu l'as fait, parce qu'effectivement, on peut voir les différents enjeux, que ce soit d'un côté et de l'autre. Donc ça fait toujours plaisir d'avoir un avis assez, assez ouvert, finalement. C'est agréable. Plutôt que de prendre parti.
Des mésanges qui sauvent les forêts, on a des mésanges qui se disent bonjour.
On a de tout chez les mésanges, écoute, c'est comme ça, voilà, c'est des oiseaux qui sont assez incroyables, et c'est vrai qu'on a une diversité chez ces oiseaux-là quand même qui est assez formidable. Et du coup, pour la mésange dont je voulais vous parler aujourd'hui, qu'on appelle la mésange de Chine, même si en anglais ça s'appelle plus la Japanese teat, donc la mésange japonaise, bon. Mésange de Chine, ça a un peu plus de sens. C'est vrai qu'elle est non seulement sur l'archipel nippon, mais elle est aussi du côté de la Chine et un peu de la Russie. Donc cette petite mésange là, qui ressemble beaucoup d'ailleurs à notre mésange charbonnière, qui était précédemment d'ailleurs classifiée comme une sous-espèce de la mésange charbonnière. C'est pour ça que je t'ai dit l'autre fois, mais t'as pas tort, parce que tu pensais qu'on allait parler de la mésange charbonnière. Effectivement, ça ressemble beaucoup à la mésange charbonnière.
Ah, j'ai vraiment cru, j'avais pas lu l'article.
C'est ça.
Bon, voyez une photo, j'ai fait... C'est une maison charbonnière.
Mais presque, parce que jusqu'à récemment, cette espèce a été classifiée comme sous-espèce donc de la maison charbonnière, qui est nom d'espèce parus major. Et donc celle-là, la maison de Chine, donc, a été décrétée espèce à part entière depuis peu, et s'appelle maintenant parus minor. Donc pour la différencier, cela dit, les deux populations, la mésange charbonnière européenne et la mésange de Chine, s'hybrident régulièrement au niveau de la liaison entre leurs deux aires de répartition. Donc c'est quand même des populations qui finalement sont très très proches.
Du coup, quand il y a hybridation, on l'appelle parus medium. C'était
une bonne question.
Major et minor.
Ah, ça, je ne saurais dire. Et je me demande d'ailleurs si ces hybrides sont finalement fertiles ou pas. Ce serait intéressant à regarder, mais je pense qu'ils le sont. Ce serait amusant de voir ça.
Ah.
Ouais. Alors, à la guerre, je serais partie peut-être sur une histoire de clean de variation entre, du coup, une espèce et l'autre, peut-être un peu comme des histoires de goélands, tu sais. Bon, après, c'est...
Mm-hmm. Alors, peux-tu expliquer le clean de variation pour les gens qui ne savent pas ?
Ah oui, autant pour moi. Alors, un clean de variation, c'est, en gros, vous avez une très grande aire de répartition pour une espèce. Et sauf que cette aire de répartition est tellement grande qu'elle va s'étendre sur peut-être un continent entier, mettons. Et d'un côté de ce continent, l'espèce va avoir une certaine tête, un certain aspect physique, et peut-être que de l'autre côté de ce continent, bah, la même espèce va avoir un aspect totalement différent. Pourtant, tout au long, au cours de sa répartition sur le continent, et ben finalement, l'espèce va changer graduellement, ce qui fait que vous allez avoir ce clean de variation sur toute la zone de répartition. Donc même si d'un côté du continent, l'espèce ne ressemble pas du tout aux oiseaux qui sont de l'autre côté du continent, bah finalement, au milieu, vous allez atteindre une sorte de d'espèce médiane. Il va être un peu à mi-chemin entre les deux, et vous allez avoir une variation très lente entre les individus qui vont être du côté droit et les individus du côté gauche qui vont... est et ouest, et qui vont s'hybrider comme s'ils s'hybridaient au milieu. Et donc vous allez, chez certaines espèces, comme le goéland brun et le goéland argenté par exemple, vous allez avoir cette variation entre les deux, ce qui fait que d'un côté du clean de variation, vous allez avoir une espèce, le goéland argenté, et de l'autre côté, vous allez avoir une autre espèce, qui est le goéland brun. Et si vous prenez deux oiseaux à chaque extrémité du clean de variation, ben peut-être que ces oiseaux ne vont pas du tout se reconnaître comme faisant partie de la même espèce. Mais si vous prenez deux oiseaux qui sont un peu plus proches sur ce clean de variation, un peu plus au milieu de cette zone de répartition, même s'ils ne se ressemblent pas forcément exactement, et ben ils vont pouvoir peut-être s'hybrider et effectivement avoir une descendance fertile. Donc c'est ce qu'on appelle un clean de variation. Donc pour moi, ça ressemble un peu à ça, c'est-à-dire qu'on a la mésange charbonnière d'un côté en Europe, maison, et la mésange de Chine de l'autre côté, qui lui ressemble pas mal finalement, et qui est aussi capable de s'hybrider avec la mésange charbonnière au milieu de son aire de répartition, et qui a certainement des caractéristiques physiques de l'un et de l'autre à la fois. Donc c'est... voilà. Donc même si les deux sont considérés comme des espèces à part, finalement... étant capable de s'hybrider et d'avoir une descendance au milieu, ça montre que finalement, ils ne sont pas si éloignés de ça qu'on pourrait le croire. C'est plus simple avec un schéma, quand même, d'expliquer les clines de variation.
Et donc, notre mésange, elle a appris à dire...
notre mésange, elle a appris la politesse, effectivement. Alors c'est aussi un sujet d'actualité en un sens, parce que c'est une étude qui est sortie il y a pas longtemps de l'université de Tokyo, et les chercheurs qui... D'ailleurs c'est une équipe qui a étudié la mésange de Chine pendant pas mal d'années, je crois une quinzaine d'années au total, ce qui est quand même pas si mal. Et ils ont étudié notamment des mésanges, des couples de mésanges qui étaient en période de reproduction et qui donc rentraient au nid pour aller nourrir les petits. Et chez ces couples de mésanges, ils ont remarqué un phénomène assez intéressant, c'est que avant de rentrer dans le nid, les mésanges se saluaient d'une certaine manière en faisant un peu vibrer leurs ailes sur le côté. Et ils avaient cette sorte de mouvement des ailes, ce geste un peu particulier, avant de soit d'entrer dans le nid, soit de laisser leur partenaire entrer dans le nid en premier. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce mouvement des ailes, finalement, n'est pas vraiment... C'était pas juste pour voler, c'était pas un but... c'était pas un acte, en quelque sorte, c'était pas quelque chose qui allait physiquement faire quelque chose, une différence, c'était plus une manière de communiquer avec l'autre dans le couple, pour finalement lui dire, bah, va au nid, ou alors ne va pas au nid, j'y vais. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable, parce que je sais pas si t'es au courant, mais ces gestes-là, qui servent à la communication... ce sont pas n'importe quoi, c'est des gestes qui servent à la communication non-verbale. Alors tu vas me dire, la communication non-verbale, ça existe un peu chez tous les animaux, hein. C'est les mouvements de la tête, c'est les mouvements des oreilles, c'est le pelage qui se redresse un
peu,
les yeux, les machins. Chez les oiseaux, ça va être les plumes qui vont se redresser, qui vont se baisser, enfin bref, qui vont donner l'état d'esprit de l'animal en quelque sorte, qui peuvent être interprétés par leurs congénères. Mais là, en l'occurrence, on est sur des signes de communication non-verbale qui sont non voulus, en quelque sorte. C'est quelque chose d'instinctif. Ils ne le font pas de manière volontaire. Alors que là, ce mouvement des ailes, c'est un peu comme si nous, on faisait un geste de la main. C'est volontaire. C'est-à-dire que c'est comme si on faisait un petit salut avec la main, ou on faisait un petit... où on mettait le pouce en l'air pour dire « Ok, tout va bien », tu vois, c'est un peu comme ça. Et ça, c'est un geste de communication non-verbale volontaire qui, du coup, est fait de manière complètement cognisante. Ils le savent qu'ils sont en train de le faire, si tu veux. Ils ne font pas ça de manière instinctive. Et avec un but de communication derrière avec leur partenaire. Et ça, c'est quelque chose qu'on a seulement observé chez les humains et chez leurs cousins, les grands singes, les chimpanzés, par exemple, ce genre de choses. les bonobos, etc. Donc ça n'avait pas été observé chez les oiseaux avant. Et ça, ça, c'est quand même assez incroyable, parce que ça, ça dénote encore une fois des capacités cognitives chez les oiseaux qui sont extraordinaires comparées aux primates, comme nous. Et ça, c'est franchement, voilà, donc c'est vraiment une avancée, c'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui, c'est encore une fois un pas de plus vers la compréhension de l'intelligence des oiseaux. Et c'est pas rien, voilà, donc c'est intéressant.
J'avais vu un tweet qui disait que l'étude pouvait être remise en cause, parce que je crois que ça avait été vu que sur 6 individus ou quelque chose comme ça. T'as pu creuser ce point?
Alors non, c'est pas sur 6 individus. En l'occurrence, ils ont analysé à peu près 320 visites de nids. Alors je sais plus combien exactement, mais ça fait quand même pas mal de visites de nids, où ils ont analysé les mouvements des ailes des mâles et des femelles quand ils arrivaient sur le nid. Alors comment ça se passe exactement? Donc en gros, voilà. Donc le premier qui arrive à côté du nid va se poser pas dans le nid directement, il va se poser sur une branche à proximité du nid ou n'importe où. Et lorsque l'autre oiseau arrive, il va commencer à bouger un peu les ailes, donc ces vibrations en quelque sorte. Ça ressemble un petit peu au petit mouvement des ailes que fait le bébé oiseau quand il va demander à manger, par exemple. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu. Mais souvent, il bouge un peu les ailes sur les côtés comme ça, en faisant des petits pépiments pour demander à manger aux parents. Là, c'est pareil, sans les pépiments du coup, mais c'est juste un petit mouvement des ailes comme ça. Et un petit mouvement des ailes qui n'est pas dirigé vers le nid, il est dirigé vers l'autre oiseau. Ça aussi c'est important, c'est à noter. C'est dirigé vers le partenaire. C'est-à-dire qu'on regarde le partenaire quand on fait ça. Donc il arrive en premier, il fait ce petit mouvement des ailes. Et donc en faisant ce petit mouvement des ailes, dans la majorité des cas, le partenaire voyant le mouvement en question va rentrer dans le nid en premier. Lorsque le premier oiseau arrive à proximité du nid et ne fait pas ce petit mouvement des ailes, généralement c'est lui qui rentre dans le nid en premier. Et donc c'est là en fait qu'on a commencé à comprendre que déjà ce petit mouvement d'ailes n'arrivait que lorsque les deux oiseaux étaient ensemble, c'est-à-dire que si jamais il n'y en a qu'un seul, il ne le fait pas, tout simplement. Que de deux, ce petit mouvement d'ailes était associé à la vision du partenaire, c'est-à-dire c'était dirigé vers le partenaire aussi. Pas vers le nid, donc définitivement il y avait quand même une décision de montrer ce mouvement à l'autre, donc c'était quand même, c'est intéressant aussi, et ensuite qu'il y avait une corrélation directe entre la réaction du partenaire et le mouvement des ailes. Et ça aussi c'est très intéressant du coup, ce qui montre que vraiment il y a une intention de communication et qu'il y a une réponse derrière à cette communication, et donc ça c'est pas rien. Donc on avait quand même plus de 300 visites de nid avec du coup ce comportement qui a été observé ou pas, en fonction des cas. Donc c'est quand même pas mal, mine de rien, au niveau statistique. Après, c'est vrai qu'on peut... C'est la première étude sur ce mouvement-là. Donc c'est vrai qu'on peut se demander si peut-être est-ce qu'on pourrait essayer de le prouver avec deux oiseaux. Comme d'habitude, en science, on va essayer de répliquer l'observation, de répliquer l'expérience pour vérifier que ça s'est bien produit comme il le faut. Donc ça, c'est un premier pas seulement. Donc il faudra le vérifier soit chez la même mésange...
C'est justement...
Voilà. Soit chez d'autres mésanges, etc. Donc...
C'est justement ce que faisait Anne comme remarque, une histoire de plume du coup, qu'on salue si elle nous écoute. Allez voir son blog, c'est très très bien. Et justement, elle en parlait dans sa lettre d'info hebdomadaire, et elle disait que l'observation n'avait été faite que sur 8 couples, et que c'était ça qui était à prendre avec des pincettes. C'était pas 6 individus qui avaient été vus, c'était des couples qui avaient été vus. C'est cette information sur laquelle je voulais rebondir. Voilà.
D'accord. Oui, dans ces cas-là, effectivement. Mais c'est... Encore une fois, c'est des premier pas dans ce domaine-là. Ce sera intéressant de voir la suite, mais je trouvais quand même intéressant de le notifier parce que c'est quand même un premier signe de communication non-verbale volontaire. C'est pas rien. Donc voilà. Ça, c'est quand même... C'est quand même
incroyable. Est-ce que les oiseaux nous font des doigts d'honneur lorsque on les prend en photo? Est-ce que les oiseaux
au final,
nous font
en
des gestes pour que l'on dégage?
Ah, peut-être.
Au final, on n'en sait rien. Au final, on n'en sait rien. En tout cas, nous, on va respecter la politesse et on va vous remercier tous et toutes d'avoir écouté ce nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Sophie, est-ce que tu veux rajouter quelque chose?
Eh ben non, mais c'était un plaisir, comme d'habitude. Merci à toi.
Plaisir partagé. On te retrouve bien évidemment sur la chaîne d'Entracte Science aux côtés de Julien. On te retrouve sur Twitter @leplumeux. On te retrouve également sur Twitch pour parler d'oiseaux et bien plus encore. Et nous, chers auditeurs, chères auditrices, vous retrouvez le podcast bien évidemment sur YouTube et sur toutes les plateformes de streaming, Spotify, Deezer et plein d'autres, pour ne rien manquer des nouveaux épisodes, mais aussi des anciens épisodes du Courrier de la Sterne. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.
À bientôt.